voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que ce soir, nous allons parler de comment sortir le secteur culturel de la zone rouge dans laquelle la crise sanitaire l'a plongé et quelles pistes de relance de ce secteur figé par la pandémie de coronavirus. D'abord, décryptage et nous analysons les causes des accidents de la route Cameroun avec notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Manfred Martial Missimikine, bonjour.
Bonjour, Madame Liliane Natcha.
Vous êtes directeur de l'ONG de prévention routière Sécuroute au Cameroun. Une quarantaine de personnes sont mortes et une vingtaine d'autres blessées ce week-end dans un accident de circulation dans l'ouest du pays. Dans quelles circonstances est intervenu ce énième drame routier?
Oui, l'accident qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, à 10 km, qui s'est déroulé dans la nuit vers 3 heures du matin. Donc, un bus de transport public chargé de 70 personnes a accroché un camion. À l'issue de l'accrochage du camion, qui s'est enfoui, le bus étant en vitesse a dérapé et allait frapper un talus, faire deux tonneaux avant d'aller finir la course dans la rivière. Le choc était tellement violent que la cabine s'est encastrée dans le sol.
Est-ce que le bus était surchargé?
La question que vous soulevez est très importante pour nous. C'est un fléau au niveau des transports des personnes. La question des surcharges de véhicules est un problème crucial parce qu'en cas de surcharge, le bus n'a plus les capacités de freinage adéquates. Et pour le cas de ce véhicule, ce bus était en surcharge parce que c'est connu, cette agence a l'habitude d'interposer des tabourets entre les sièges pour transporter les passagers. Et cette opération se fait de nuit et les passagers sont complices parce qu'ils ne montent pas dans le bus à l'agence, ils attendent de traverser les barrières de police avant d'entrer dans le bus. Ce qui fait que ce matin, une opération que nous soutenons a été lancée, zéro tabouret dans nos bus et nos axes routiers pour permettre de réduire le nombre de morts sur nos routes.
Vous accusez les passagers, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un laxisme de la part des autorités?
Quand vous avez un bus devant vous chargé de 70 personnes, plus 20 personnes en surcharge, vous êtes deux agents de police dans le contrôle, vous avez du mal à en partir avec les passagers eux-mêmes qui vous reprennent. Et c'est arrivé, aussi avec les taxis brousses, où dans un taxi de 7 personnes, on a 14 personnes, le gendarme qui habite le coin est impuissant face à la volonté du chauffeur et des passagers de se déplacer dans des conditions d'insécurité. Nous avons mis à sécurité un système de veille et d'observation du comportement des transporteurs de personnes. Et depuis 20 ans, à ce jour, certaines entreprises connues de la place ont pu se moderniser et transport des conditions, passer dans les conditions de sécurité. Mais il y en a d'autres que nous avons interpellés à plusieurs reprises, mais ont continué à faire leur sale besogne.
Et cette agence en faisait partie
des vieux bus. Oui, cette agence a été interpellée il y a 3 ans. Ils nous ont envoyé la charte de communication, mais malgré nos interpellations, nous avons même reçu des vidéos, des appels en détresse des passagers tard dans la nuit qui sont retrouvés surchargés. Et cette agence a continué à surcharger les véhicules. Et nous pensons que cet accident peut être un message très fort.
Des vidéos d'alerte de passagers ont-elles été soumises aux autorités pour action?
Écoutez, nous sommes une force de dénonciation des mauvaises pratiques sur les routes. Donc chaque fois que nous recevons des alertes, nous avons des canaux pour tenir informés les pouvoirs publics, soit par les plusieurs réseaux WhatsApp que nous partageons ensemble. Et nous discutons B2B, et parce que vous savez très bien, nous sommes en Afrique, la communication par écrit a des répercussions quelquefois dangereuses pour les militants de la sécurité routière. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer.
Donc vous voulez dire que quand vous écrivez aux autorités pour signaler ces cas de non-respect des normes de transport, vous êtes pris pour cible?
Ben effectivement, les actions que nous menons sont à l'encontre des intérêts des transporteurs parce que la non-surcharge réduit drastiquement leurs gains. Par exemple, la promotion de la mise en place des radars que nous avons appuyés, faire en sorte que la durée des voyages est devenue très longue. Et pour eux, c'est des pertes en termes d'argent. Et
quelle est la part de responsabilité de l'État des routes qu'on dit désastreuses au Cameroun, mais aussi des permis acquis par des chauffeurs dans des conditions plutôt problématiques?
La question de la sécurité est un problème systémique. Et la corruption fait son lit dans les transports. Le système de transport est un système où il y a beaucoup de la corruption parce que les gens de la route ne veulent pas se conformer à la réglementation.
Selon les chiffres officiels de la gendarmerie, environ 800 personnes ont été tuées au cours de cette année 2020 dans les accidents de route. Est-ce que vous confirmez ces chiffres?
Oui, les chiffres, je peux les confirmer pour ce qui concerne les sources de la gendarmerie nationale qui sont en charge de collecter les informations liées aux accidents interurbains. Nous avons compilé les chiffres de différentes sources, notamment la police, les hôpitaux et les assurances. En 2020, nous allons tendre environ vers 1700 tués sur les routes camerounaises.
C'est-à-dire le double du chiffre officiel?
Oui, le chiffre officiel, c'est pour la gendarmerie nationale, dont nous avons besoin aujourd'hui d'un organe régulateur qui est chargé de coordonner la sécurité routière au niveau national et qui sera à même aussi de coordonner les statistiques pour qu'on ait des statistiques qui présentent la situation nationale.
Martial Manfred Missimikim, merci beaucoup.
Je vous en prie, madame.
Directeur de l'ONG de prévention routière Sécuroute au Cameroun.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous vous rappelons que nous allons parler ce soir des pistes de relance du secteur culturel qui est sinistré à cause de la pandémie de coronavirus avec nos invités qui sont en ligne. Didier Awadi, artiste rappeur sénégalais depuis Dakar. Didier Awadi, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, Mokhtar Sall, producteur de spectacles événementiels. Il est à Paris avec nous. Bonsoir, Mokhtar.
Bonsoir.
Fodé Isto Kera, ancien ministre guinéen de la Culture. Monsieur le ministre, bonsoir. Allô, monsieur Kera, vous m'entendez? Fodéba Kera, qui est également actuel secrétaire général du ministère guinéen des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Il m'entend, me fait un signe. Monsieur Kera, bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs.
Merci à vous et nous essayons de joindre Liliane de Massoc, qui est actrice culturelle en ligne de Douala, qui n'est pas encore avec nous. Et je commence justement par vous, hein, monsieur le ministre Kera. En France, en 2018, le secteur culturel, c'est 2,3% du produit intérieur brut, soit environ 47 milliards d'euros. Et que sait-on pour ce qui est de la Guinée? Est-ce qu'on a des chiffres clairs de la contribution du secteur culturel à l'économie guinéenne?
Oui, il faut dire que le secteur culturel guinéen a connu beaucoup de mutations depuis quelques années. Et aujourd'hui, on peut se permettre de dire que l'apport de cette culture intérieure brute peut être dans l'ordre de 5 à 6% du produit intérieur brut.
D'accord. Ça, ce sont les chiffres actuels. Ils sont récents,
oui,
ceux de 2019.
Oui, absolument.
D'accord.
Oui.
Parce que nous avons essayé en vain, hein, je pose la question, parce que nous n'avons pas pu retrouver ces statistiques. Et donc, vous les avez, il faut les rendre publics, que ce soit accessible aux journalistes. Ça est un peu aussi difficile, hein, Didier Awadi, pour le cas du Sénégal, de savoir précisément le poids, la contribution de la culture au PIB.
Pardon?
Qu'en est-il, monsieur Didier Awadi, vous m'entendez? Allô, Didier? Non, pas encore. Mokhtar Sall, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, comment les artistes vivent-ils cette situation, on va dire, de traversée, de désert, surtout que la seconde vague est en cours et n'a pas fini de sévir et davantage encore dans le secteur culturel?
Oh, très difficilement, je pourrais dire, franchement, très difficilement, et ce n'est pas que les artistes, mais tout ce qui gravite autour des artistes, actuellement, ils sont en train de le vivre, mais très difficilement, parce que même moi-même qui vous parle, moi, par exemple, j'ai eu la chance quand même de faire un concert le 1er février 2020 avec un artiste sénégalais en France, qui a fait guichet fermé, c'était une bonne chose. Et je devais enchaîner un autre spectacle au mois de juin. Et donc, imagine-toi, donc au mois de juin, on n'a pas pu le faire. On a poussé au mois de novembre. Là, on pousse vers le mois de mars. On ne sait même pas. Et donc, les artistes actuellement, surtout si c'est des artistes qui n'ont pas forcément certains droits, qui comptaient beaucoup sur sur les prestations pour avoir des moyens de survie, donc se retrouvent dans des situations assez compliquées.
Donc, selon que les artistes, selon que l'artiste soit connu ou peu connu, les difficultés sont différentes.
Ah oui, oui, oui. C'est toujours présent parce que c'est de l'argent en moins, c'est des ressources en moins, et ça reste quand même une part assez importante dans la culture, même au-delà même, parce que même si vous regardez des grandes sociétés comme la SACEM qui s'occupe des droits d'auteur ont récemment annoncé qu'ils allaient enlever 150 postes de travail parce qu'ils n'avaient plus justement des moyens pour récupérer
pour
des
collecter,
droits,
parce que, collecter les pour droits collecter. Et redistribuer aux artistes.
Exactement, parce que je sais pas si vous savez, parce que quand on fait par exemple un spectacle dans une salle parisienne ou autre chose, par exemple en France, ou même dans les autres pays aussi, hein, c'est valable dans tous les pays du monde, on doit verser une cotisation, que ce soit à la SACEM, que ce soit à la SODAV ou n'importe quelle autre société de gestion de droits d'auteur.
Merci.
Et donc c'est un grand manque à gagner pour l'industrie, voilà quoi, pour toute la culture quoi, surtout. Donc ça va dans tous les sens et ils sont dans des situations assez précaires quoi.
Merci.
Certains commencent même à lâcher un petit peu.
Merci voilà. Beaucoup Mokhtar Sall. On fait signe que Didier Awadi m'entend à présent. Didier Awadi.
Allô.
Oui, bienvenue
oui,
à vous.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends 5 sur 5, okay, pourrais-je
okay.
dire.
Ah, okay.
Alors j'étais en train de... La première question, je laisse tomber pour la contribution de la culture au PIB sénégalais, mais on avançait déjà avec Mokhtar Sall sur les difficultés des artistes. Comment est-ce qu'ils traversent ces moments difficiles avec cette seconde vague? Et il expliquait que la fin de l'année a été difficile, la fin d'année l'est encore plus et rien n'indique que l'année prochaine on verra plus clair. Comment au Sénégal, vous, les artistes particulièrement, puisqu'on parle quand même aussi du monde culturel, mais pour ce qui est des artistes, comment est-ce que vous vivez cette fin d'année sans concert, sans spectacle?
C'est très, 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 très dur. On ne la vit tout simplement pas. Hein. Voilà, on compte les dettes pour certains, les autres, ils comptabilisent les drames sociaux. Donc, c'est très dur, quoi. Il n'y a pas à dire, c'est très dur. Mais au-delà de l'aspect économiquement dur, c'est l'incompréhension et le manque de dialogue serein entre l'État et nous-mêmes. Donc, parce qu'ils ont des... je pense qu'ils ne comprennent pas l'étendue des dégâts et ils ne comprennent pas qu'on parle d'économie de la culture et que si nous ne faisons rien par rapport à l'économie de la culture pour la sauver, il y aura des drames sociaux, un drame économique et une explosion sociale très bientôt si on ne fait pas attention à tout ce secteur.
Didier Awadi, quand vous parlez de l'incompréhension, du manque de dialogue serein avec entre les autorités et les acteurs, je suppose que vous faites allusion aux mesures restrictives qui ont été réintroduites par les autorités pour faire face à la seconde vague. Allô, Didier?
Allô, oui, je vous entends.
Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui.
J'ai dit, en Europe, on parle de seconde vague. Est-ce qu'ici, il y a vraiment une seconde vague? Il n'y a pas d'hiver qui arrive brusquement avec la seconde vague. C'est que ça n'a jamais arrêté comme partout, mais ce n'est pas aussi dramatique qu'en Europe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on applique un protocole sanitaire clair, on peut travailler avec le Covid parce que tous les autres secteurs de la société travaillent. Mais on a indexé le milieu de la musique en leur disant vous n'avez pas le droit de vous produire parce que vous poussez au rassemblement. Alors que nous disons nous pouvons travailler dans des jauges plus réduites en suivant un protocole de santé qu'on a mis à la disposition du ministère de la Santé, de l'Intérieur et de la Culture.
Allô Didier? Allô
Travail scientifique pour leur dire nous pouvons travailler. Oui,
Oui, on va arriver à ce stade-là.
Notre appel qui essaie de rentrer, ça c'est pénible.
D'accord. On va essayer de revenir à la proposition que vous faites pour que les salles de spectacle puissent rouvrir. Mais je souhaitais qu'on fasse déjà un état des lieux de la situation actuelle. Est-ce que c'est cette incompréhension-là qui a poussé les artistes à manifester et à organiser un sitting la semaine dernière, malgré l'interdiction de se rassembler?
Oui, c'est exactement ça, parce que on a bravé l'interdiction, parce que pour nous, elle n'avait pas de sens. Parce que nous avons produit, comme je vous disais, un protocole de santé qui nous permettrait de travailler, un protocole qui stipule que on peut travailler dans des jauges réduites en respectant les mesures barrières, et nous étions prêts à ce sacrifice. Donc, on laissait toutes les grandes jauges où on se paye beaucoup d'argent, mais le gros de la troupe, le gros des musiciens pouvaient enfin travailler et donc gagner leur dignité normalement.
Est-ce que voilà,
vous, donc vous, comme vous... ils n'ont pas compris, donc nous on s'est dit on va faire notre sitting, et en fin de compte on l'a tenu, et ils ont reculé, ils ont compris que c'est nous qui avions raison quelque part.
Merci beaucoup Didier Awadi, et Hugo Vallière à la réalisation me fait signe que Liliane de Massor est en ligne de Douala. Liliane de Massor, bonsoir, soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci. Désolée de prendre l'émission en cours.
Non, vous êtes la bienvenue, Liliane. Ce sont des difficultés de liaison avec Douala. Vous êtes donc actrice culturelle, et les précédents intervenants, notamment Didier Awadi, qui est rappeur et artiste sénégalais, expliquaient que le monde culturel, pour ce qui est du Sénégal, ne comprend pas que les salles de spectacle soient toujours fermées et que les artistes ne puissent pas organiser des concerts. Quelle est la réalité au Cameroun, où on a l'impression que la vie tourne plutôt de façon normale?
Oui, non, mais d'abord, je dis bonjour à Didier, que je connais très bien, qui fait la fierté du continent. Ça marche pas bien au Cameroun, c'est pareil. Il y a certainement des petites scènes underground, informelles, qui disent pas leur nom. Ça reprend doucement. Je crois qu'aujourd'hui, on avait un artiste français, enfin d'origine camerounaise, Taïsi, un truc comme ça, un jeune qui marche bien là-bas, qui avait un concert hier, et aujourd'hui, mais pas, c'était pas vraiment la grosse réussite. On est comme tout le monde, asphyxié. Moi, j'ai coutume de dire que le soldat culture est un pronostic vital très engagé. Et pour nous, c'est, je sais pas, c'est une position de non-retour. Voilà, c'est très grave.
D'accord, mais Didier semblait avoir beaucoup de reproches à l'égard des autorités. Est-ce que ce sont également votre sentiment? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, ici en France, certains disent que les acteurs culturels sont stigmatisés, il y a comme du deux poids, deux mesures par rapport aux autres secteurs. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Est-ce que ce sont les mêmes reproches que vous formulez à l'endroit des autorités camerounaises?
Absolument. Absolument, absolument. Il n'y a pas de volonté politique. Écoutez, on ne peut pas laisser des meetings se faire avec des fois 1000 personnes et pas autoriser un concert. D'abord, on n'est pas accompagné. On est vous, laissez-vous à nous-mêmes. On vous dit, d'abord, moi je suis dans l'événementiel, on vous dit pas de rassemblement de plus de 50 personnes, cette loi n'est toujours pas levée. Donc même si on fait des choses, on est hors la loi. On ne nous permet pas de faire des concerts, on ne nous accompagne pas, le manque à gagner est énorme. Déjà au Cameroun, c'est bien connu, les droits d'auteur et tout ce qui va avec, ça ne suit pas. Qu'est-ce que vous voulez? La culture, merci, est le parent pauvre, et encore, parent pauvre, je suis gentil. C'est vraiment un enfant bâtard, c'est comme si on n'avait pas de famille, ce n'est pas normal.
Merci,
c'est les autorités
beaucoup
qui doivent, on a un ministre. C'est pas normal.
Merci beaucoup, Liliane de Massor. Fodeba Istokera, vous êtes ancien ministre de la Culture et vous restez toujours en poste puisque vous êtes secrétaire général du ministère des Sports et de la Culture. Que répondez-vous à ces artistes qui lancent de tels cris de détresse?
Oui, je partage pleinement. J'avoue d'abord que je reste et demeure opérateur culturel. Je salue de passage mon frère cadet, Didier Awadi, c'est un plaisir ici pour moi de partager cette émission avec lui et d'autres amis camerounais et des autres pays africains. Ben, je suis solidaire justement de leur déclaration parce que ici, en Guinée aussi, la culture a été frappée de plein fouet. Il y a eu des interdictions et progressivement, puisque bon, ce n'est pas la même intensité au niveau de la contamination. Et il faut saluer d'ailleurs le corps médical guinéen qui fournit beaucoup d'efforts et conscient de cela. Et puis ensuite, vous savez que nous sortons des élections présidentielles où il y a eu beaucoup de meetings et tout. Donc,
mais justement, monsieur le ministre, dites-nous pourquoi est-ce qu'on peut organiser des campagnes électorales? Les élections viennent de se tenir dans plusieurs pays africains, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Centrafrique et bientôt en Ouganda, je pense que c'est le 14 janvier prochain. Pourquoi peut-on mobiliser des milliers de personnes pour faire des campagnes électorales, organiser des élections et pas un millier d'autres pour assister au spectacle?
Bon, je crois que la réponse est très simple. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays parce que chez nous, par exemple, en Guinée, puisque l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui travaille avec un comité scientifique piloté par le premier ministre chef du gouvernement, ces différentes structures ont rencontré les opérateurs culturels et cela était sous le leadership de notre département, le département de la culture, pour essayer de poser des doléances parce qu'on a constaté que effectivement il y avait eu ces rassemblements. Donc, il y a eu un allègement depuis 3 mois maintenant. Les salles de spectacle sont ouvertes, mais avec évidemment certaines restrictions parce que l'accès de la salle nécessite la présentation, par exemple, d'une attestation de négativité. Et bon, les tests sont gratuits.
Ce qui n'est pas le cas dans les meetings politiques où les hommes politiques peuvent faire ce qu'ils veulent, organiser des meetings sans mesures barrières.
Le contraste, c'est cela. Maintenant, les spectacles en plein air, il faut certaines restrictions. Par exemple, encore, il faut le port obligatoire des bavettes, des masques, et puis respecter la distanciation.
Excusez-moi, monsieur le ministre, parce que ce que vous dites, les personnes qui veulent participer au spectacle, ils achètent le billet, et en plus, il faut aller se faire dépister, alors qu'on sait que dans certains pays, les tests de dépistage COVID-19 ne sont pas gratuits, ils sont payants.
En Guinée, pour les spectacles, les tests de dépistage en Covid sont gratuits. Et cela est supervisé par une structure qu'on appelle l'Agence guinéenne de spectacle, qui est une structure sous notre tutelle au ministère de la Culture et qui réglemente l'organisation dans l'optique de la professionnalisation et la structuration du spectacle, du secteur du spectacle dans la République de Guinée.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Messieurs et dames, je vous invite à observer une toute petite pause et je vous retrouve dans un instant pour la suite du débat et on écoutera Mokhtar Sall qui est en ligne de Paris.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que ce soir, nous débattons des pistes pour relancer le secteur culturel qui est dans le rouge dans plusieurs pays. Vous venez de l'entendre de nos invités, et qui sont Liliane de Massock, qui est actrice culturelle à Douala au Cameroun, Mokhtar Sall, producteur de spectacles événementiels à Paris en France, Fodéba Istokera, ancien ministre guinéen de la Culture et actuel secrétaire général du ministère des Sports et de la Culture et du patrimoine historique de la Guinée, et Didier Awadi, artiste rappeur sénégalais depuis Dakar à Paris. Et je rappelle que notre ministre est en ligne de Conakry. Mokhtar Sall, vous m'entendez? Allô Mokhtar?
Oui.
Didier Awadi parlait de l'incompréhension et le mot a été également utilisé par les acteurs culturels ici qui parlent de discrimination, qui estiment que l'État fait du deux poids, deux mesures. Vous venez, de reconnaître que la SACEM a déclaré qu'elle aussi enregistre un manque à gagner. On parle même de suppression de postes. Est-ce qu'en tenant le discours selon lequel il y a du deux poids, deux mesures, vous ne faites pas une lecture unilatérale de la situation? annulation. Je le dis pourquoi ? Parce que, eh bien, lorsqu'il y a annulation des spectacles, lorsqu'il n'y a pas de festival, l'État aussi en pâtit. Ce sont des recettes que l'État perd. Dans quel intérêt l'État voudrait-il porter préjudice au secteur culturel ? Qu'est-ce qu'il gagne à le faire, si je vais dans votre logique ?
Bon, après c'est, moi je pourrais pas vraiment comparer parce que entre par exemple la France et les pays comme le Sénégal, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en France, au niveau des droits d'auteur et tout, il y a beaucoup de choses qui sont respectées et puis il y a des systèmes de remboursement qui existent des fois. Par exemple, quand on a une société et qu'on la déclare et qu'on a fait des chiffres d'affaires et tout, on peut toujours avoir, il y a une aide qui existe même par rapport aux impôts, où on peut se faire quand même dédommager une petite somme, tu vois, une bonne partie même de la somme et tout, par rapport à l'année précédente, comparé par exemple ou en Afrique où les droits d'auteur sont carrément lésés. En Afrique, les droits d'auteur sont, excusez-moi, bien, limite inexistants.
Dérisoires.
En fait. Voilà, tu vois. Donc c'est hyper dérisoire, c'est pas du tout le même cas. Et puis le pire, c'est que en Afrique, surtout par exemple des pays comme le Sénégal et tout, il y a eu quand même des rencontres religieuses. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des décès, il y a eu beaucoup de regroupements, même des rassemblements politiques et autres. Et donc, bizarrement, quand il s'agit de faire des concerts et autres événements culturels, c'est interdit. Parce que,
oui, Mokhtar, nous l'avons bien compris. Ma question était de savoir dans quel intérêt, d'après vous, l'État voudrait empêcher le secteur culturel d'exister, puisque lui aussi, normalement, perd des recettes lorsque des spectacles ne sont pas organisés. Quel est l'intérêt de l'État?
Franchement, même nous, on n'arrive pas vraiment à le comprendre quel est son intérêt. Moi, je pense que c'est plutôt une incompréhension de l'État. En fait, c'est plus par rapport à ça, parce que l'intérêt, il ne peut pas en avoir, parce que comme vous le dites, comme vous le signalez, l'État n'en profite pas du tout, parce que si on regarde bien, même niveau de l'économie, il y a quelque chose qui passe, parce que la culture ramène de l'argent à l'État. Des pays comme la France, c'est, si je me rappelle bien, c'est presque l'équivalent de l'industrie automobile, la culture.
On parlait de 2,5% de contribution au PIB national, les chiffres de 2018.
Voilà. D'accord. Donc, tu vois, donc c'est très important. C'est plus une incompréhension de ce secteur-là.
Merci beaucoup.
Par rapport à ça.
Didier Awadi, vous avez peut-être une réponse. Pourquoi l'État prend de telles mesures contre le secteur culturel alors que lui-même y perd? Est-ce que c'est de l'extrême prudence de la part de l'État ou c'est vraiment une volonté manifeste de nuire au secteur culturel?
Non, je ne pense pas que ce soit une volonté de nuire. Je pense que c'est de l'incohérence et un manque de considération de la culture. Quand vous prenez des gens qui ne comprennent pas qu'on parle d'économie de la culture et de l'impact de l'économie de la culture sur le produit intérieur brut, eh bien ces gens-là, pour eux, ils ne voient que l'aspect folklorique de la culture. Donc l'incohérence, c'est ce que nous dénonçons. L'incohérence dans les politiques, ça veut dire quoi?
Une incohérence en Afrique, précisément au Sénégal, au Cameroun, comme vient de le dire Liliane, mais
oui,
aussi dans des pays où on comprend l'enjeu du secteur culturel comme la France.
Non, il y a l'incohérence. Non, je parle vraiment pour les pays africains, qu'à tous mes devanciers que je salue avec beaucoup d'honneur, tout le monde autour du plateau. Franchement, c'est des amis et beaucoup de respect. Mais l'incohérence, c'est ce qu'on note partout. Les politiciens font leurs manifestations et quand on doit sévir par rapport au Covid, on les voit pas agir dans les marchés, on ne voit pas aseptiser les marchés, ni les écoles, ni les transports en commun, rien du tout. Et ils se disent, on va arrêter les musiciens. Mais alors que là où il y a le vrai problème, c'est les transports en commun, c'est les marchés, c'est les meetings politiques. Eux, ils continuent et se disent comment marquer psychologiquement la société, c'est en arrêtant les artistes. Donc c'est un manque de considération et c'est une incohérence politique et c'est un manque de culture générale tout simplement, en ne comprenant pas qu'aujourd'hui on parle de l'industrie de la musique, on parle de l'économie de la musique, tu vois, on parle d'économie créative, donc tu vois, ils ne comprennent pas tout ça, c'est dommage, hein. Je pense qu'on a les mauvaises personnes au mauvais endroit. Maintenant, heureusement, en Guinée, ils ont Histo, qui est un promoteur,
Et moi, je dois dire que j'ai beau être artiste, je suis aussi promoteur, on fait des gros événements ici, mais le manque à gagner, mais c'est juste horrible, quoi.
Merci beaucoup, Didier Awadi. Liliane de Massot, est-ce que vous pensez que vos compatriotes camerounais comprendraient quand vous autorisez, vous, le secteur culturel, là, j'entends, relancer vos activités comme avant?
Mais non, mais bien sûr, ils comprendraient, c'est-à-dire...
Je te pose la question. Écoutez, parce qu'il y a une angoisse générale avec le Covid, la tendance, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est l'inquiétude. Est-ce que si les autorités décidaient aujourd'hui de dire « allons-y, on relance le secteur culturel comme avant », l'état d'esprit du Camerounais tel que vous les connaissez, est-ce qu'il serait favorable?
Non, mais c'est-à-dire que soyons sérieux. Didier l'a dit si bien. Les marchés, chez nous, les marchés, vous connaissez nos marchés. C'est populaire. Les gens sont les uns sur les autres, les plateaux des uns, les attelages des uns sur les autres. Les meetings, on sait ce que c'est. Ils sont tous les uns sur les autres. Aucune différence si on fait un spectacle. C'est-à-dire, donc mes compatriotes, s'ils sont capables d'aller au meeting de tels politiciens pour les régionales ou aller au marché où, vraiment, je vous assure, c'est la masse populaire, mais ils n'auront aucun problème à aller à un spectacle. C'est même l'inverse qui ne comprennent pas. Pourquoi on les empêche de au moins aller se divertir?
Allô, Liliane? Allô, Liliane de Massot?
C'est moi qui caricature, mais j'ai juste envie de dire que... Ignorance, c'est de la pure ignorance de leur part, parce que effectivement, la culture rapporte de l'argent. On travaille, on fait gagner de l'argent, on fait rentrer de l'argent. C'est un métier, c'est une industrie. Pourquoi nous, on est aux abonnés absents? C'est nous qu'on punit parce que c'est une punition.
De laisser pour compte, en quelque sorte.
Pas, mais on a... Donc, non.
Merci. Merci beaucoup, Liliane. On va aborder tout à l'heure les solutions possibles. Monsieur le ministre Keïra, je cite un instrumentiste sénégalais, Abdoulaye Faye, qui se posait cette question le jour où les Sénégalais, les artistes sénégalais, les acteurs culturels se sont mobilisés. C'est le 24 décembre dernier. Il dit ceci: comment un musicien dans un restaurant ou un club là-bas sur scène peut propager le virus alors que, regardez les bus, on est au fond du trou? Qu'est-ce que vous inspire de cette comparaison? Est-ce que finalement, vraiment, les salles de spectacle sont aussi dangereuses qu'on veut laisser croire?
Non, je partage très sincèrement le point de vue de cet artiste, parce que c'est justement la problématique que nous avons posée tout de suite. Awadi parlait. Vous savez, le problème en Afrique, nous avons de sérieux problèmes parce que nous avons affaire à des politiques qui ne comprennent pas du tout c'est quoi la culture. Et nous avons fait tellement de rencontres professionnelles, tellement d'ateliers depuis les années 90 pour prouver que la culture aussi peut être porteuse de croissance. Mais c'est difficile. Mais bon, quand cela ne tienne, je pense que progressivement, ils vont comprendre, parce que on parle d'économie créative aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne. La culture apporte beaucoup, peut apporter beaucoup à l'économie.
Oui, monsieur le ministre, vous défendez la culture, mais le problème, c'est que ce message ne semble pas passer auprès de vos collègues du gouvernement. Est-ce que vous leur donnez des arguments adéquats pour défendre les positions des artistes et comprendre l'enjeu de la culture?
En tout cas, ici, en Guinée, je peux vous dire que, justement, il y a cette plateforme qui est créée entre le gouvernement et les opérateurs culturels, parce que très souvent, nous nous rencontrons avec le comité scientifique, avec les membres du gouvernement, et puis l'Agence nationale de sécurité. C'est des structures qui sont occupées, qui s'occupent de la gestion, n'est-ce pas, de cette crise-là, pour la faire comprendre. Et ce qui nous a fait... ce qui nous a fait aboutir à ces mesures qui sont quand même de toute façon toujours drastiques, parce qu'il faudrait qu'on laisse les gens s'éclater, que la culture puisse, les artistes puissent s'exprimer.
Sans jaillir, comme on dirait à Youpougon, voilà, en Côte d'Ivoire.
Voilà. Parce que nous, par exemple, ici, c'était prévu qu'on rende un grand hommage à Mori Kanké, qui nous a quittés pendant cette période d'épidémie. Et jusqu'à présent, nous avons de sérieux problèmes parce que nous allons faire venir beaucoup de personnes. Parce que Mauritanie, c'était pas seulement la Guinée, c'était l'humanité entière. Donc, ce projet-là, nous l'avons avec les opérateurs culturels, parce que nous croyons au partenariat public-privé, le principe des 3P. Donc, nous sommes en train de nous battre, parce que, justement, la chance chez nous, c'est que il y a, au niveau de ce département, quand même plusieurs opérateurs culturels qui occupent de certaines fonctions, des postes de responsabilité, qui souvent profitent des réunions pour
faire passer le message
des acteurs culturels.
Merci
parce que
beaucoup.
Nous sommes solidaires d'eux et nous faisons en sorte que progressivement, vraiment, les salles de spectacle puissent s'ouvrir et que les boxes de répétition, les salles de les studios d'enregistrement, pourquoi pas.
Merci.
Parce qu'il y a un handicap sérieux aujourd'hui au niveau de la culture. Ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, ce problème a été posé lors de notre réunion dernière avec l'Union africaine et puis la CEDEAO. Nous avons posé le problème. Et c'était des problèmes identiques au niveau de tous les pays africains. Et nous avons même demandé la mise en place d'un fonds pour la résilience, pour essayer.
Merci beaucoup.
D'aider les acteurs culturels à pouvoir au moins amortir certaines dépenses qu'ils ont.
Merci beaucoup. Parlant de fonds, merci Monsieur Kera. Parlant de fonds, Mokhtar Sall, l'État français, de même que les gouvernements des autres pays africains, comme le Sénégal, que Didier Awadi nous confirmera, ont débloqué de l'aide en faveur des artistes ici en France. On a parlé de la mobilisation de 11,5 millions d'euros à destination des professionnels les plus fragilisés. Est-ce que cette aide a été une bouffée d'oxygène? Est-elle suffisante ou pas? Quel a été l'impact de cette aide pour le secteur?
Non, ça a été plutôt vital, c'est parce que c'est hyper important, sachant comment ça se passe en France. On a forcément besoin de revenus pour faire quoi que ce soit. C'est un bon geste, moi, je trouve, parce que c'est assez simplifié par rapport à la demande. C'est par rapport, par exemple, moi, je suis producteur de spectacles. Donc, en créant ma société, chaque fois que je déclare, il suffit juste que j'aille dans la plateforme des impôts et je fais ma déclaration et voilà quoi, et ça se passe. Et heureusement qu'il y a ça. Franchement, c'est une bonne chose. Quoi.
Merci.
C'est une bonne chose.
Didier Awadi, c'était aussi une bouffée d'oxygène. Allô, Didier? Didier Awadi?
Oui, excusez-moi, vous pouvez reprendre?
Oui, je parlais de l'aide publique apportée au secteur culturel. Les artistes ont reçu des petites enveloppes de la part de l'État sénégalais. Est-ce que pour vous, ça a été une contribution, une aide qui a été significative face aux difficultés que vit le secteur?
Nous avons effectivement reçu une aide. Après 3 mois et on dit merci, bravo, c'est un effort qui a été consenti, nous le reconnaissons. Mais cette aide-là réellement ne peut pas faire grand-chose quand quelqu'un a 10 mois d'arriéré, 10 mois de problèmes. Cette aide-là divisée qui est très modeste, divisée par le nombre d'intervenants, ça fait pas grand-chose, mais c'est déjà bien que l'État dise « je fais une aide ». Je sais que certains pays n'ont pas eu cette aide, donc on ne crache pas dessus. Mais nous disons aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aide, il s'agit de dignité.
La Vous voulez travailler.
D'un être humain, c'est son travail. Donc c'est très bien de penser à une aide, mais ce que nous voulons, ce n'est pas de l'aide, c'est justement, c'est nous aider à nous passer de l'aide. C'est de ça qu'il s'agit.
Merci beaucoup Didier Awadi. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans quelques instants pour conclure cette émission du Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans cette dernière partie, nous allons amorcer la phase des solutions. Quelles mesures peut-on mettre en place pour relancer le secteur culturel sinistré avec nos invités dans le grand rendez-vous ce soir? Mokhtar Sall, producteur de spectacles événementiels, Fodeba Isto Keira, secrétaire général du ministère guinéen des Sports et de la Culture, Didier Awadi, artiste et rappeur sénégalais, depuis Dakar au Sénégal, et en ligne de Douala, Liliane de Massok, à qui je vais donner la parole à présent. Liliane, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Mais avant de vous poser cette question, je souhaitais que vous disiez juste un mot concernant les aides apportées par les États au secteur culturel. Quelle a été l'expérience du Cameroun en quelques mots?
Alors, le Cameroun, vous savez, nous sommes des spécialistes du flou artistique, hein. C'est-à-dire ça, par contre, en la matière, nous sommes très forts. Alors nous, on peut voir passer comme ça une petite notice qui demande aux acteurs culturels et de s'identifier comme si on n'était pas...
Comme si vous n'étiez pas connu. Allô, Liliane de Massok, la liaison avec... Oui, allez-y, Liliane de Massok.
On produit plein de papiers administratifs, tout pour dissuader les moins téméraires. Et puis après, il y a de l'argent, on apprend qu'il y a de l'argent qui a été mis à disposition. Qui en a bénéficié, on ne sait pas. Comment ça se passe, on ne sait pas vraiment.
Donc il y a manque de transparence. Il y a eu manque de transparence dans l'attribution de ces aides.
Et c'est fait à dessein, c'est pour ça que j'appelle l'expérience du flou artistique. Donc on ne sait pas. Donc nous, il y a tout un secteur qui est en péril, à l'agonie, parce qu'il faut comprendre qu'au-delà de nous qui faisons des événements, on ne travaille pas seul. Il y a toute la logistique qui suit derrière, qui les pauvres qui ne travaillent plus, des familles entières. C'est un vrai drame. Tout ce qui est la logistique, ceux qui font les lumières, ceux qui font le son, ceux qui font la déco, les photos, les vidéos, tout ce qui a trait à un spectacle, ben, tout le monde est au chômage.
Merci,
ben voilà,
Liliane.
Déjà que ce n'était pas férulent.
Et comment sortir de ce creux aujourd'hui, de cette profonde crise que vit le secteur culturel? Comment relancer le secteur? Quelles sont vos pistes de solutions?
Alors moi, je pense que, comme disait Didier, on n'a pas besoin d'aide. Il faut réorganiser le secteur, qu'on nous laisse travailler. Travailler, on sait faire. Organiser, on sait faire. L'expertise, on l'a. Le savoir-faire, on l'a. Que le gouvernement nous accompagne, qu'il légifère le secteur.
Accompagner comment? Avec quelles mesures? Peut-être des mesures d'incitation fiscale, des garanties pour des prêts bancaires. Quelle est la nature de l'aide dont vous avez besoin, par exemple, au Cameroun?
Déjà un allègement fiscal. On ne peut pas nous tomber dessus, avoir un raccourci pour payer des impôts alors qu'on ne gagne plus rien. Presque rien, voire rien. Déjà, faciliter. D'abord, nous, on n'a pas de... Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais nous, au Cameroun, on n'a pas de salle de spectacle. On va chez des privés et on loue des salles qui coûtent très cher. D'accord? Donc déjà, même mettre les quelques salles qui appartiennent à l'État à la disposition des promoteurs. Pour nous dire, voilà, on met telle salle, les rares qui existent et qui servent à faire les meetings, à regarder les meetings, qu'on puisse aussi nous permettre, nous, entre deux meetings, de faire des spectacles et qu'on les mette à disposition, par exemple. Pire, qu'on nous appelle et qu'on discute. Parce que le ministre et ses amis qui sont au ministère, contrairement au ministre que j'écoute avec beaucoup de passion, qui est un promoteur culturel, qui est un acteur culturel en Guinée, nous, c'est ils n'y comprennent rien.
Merci beaucoup. L'accompagnement de l'État. Merci, Liliane de Massok. Mokhtar Sall, quel est le meilleur moyen aujourd'hui de soutenir réellement le secteur culturel? Ici en France, la CGT Spectacle a saisi le Conseil d'État pour demander la réouverture en vain. Avant, la CGT, les professionnels de la restauration et du ski ont également été déboutés. Quels sont les moyens aujourd'hui par lesquels passe la relance du secteur culturel?
J'ai eu des drops au moment où vous parlez. Désolé, je n'ai pas tout entendu, en fait.
Non, je disais comment relancer le secteur culturel aujourd'hui. Je parlais des actions judiciaires qui ont été entreprises, par exemple, par la CGT devant le Conseil d'État pour demander la réouverture de salles. Laquelle CGT n'a pas été entendue? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour véritablement relancer ce secteur en crise?
Franchement, moi, je pense qu'il faut quand même ouvrir, avec bien sûr des restrictions, dans la mesure du possible, parce que quand même, il y a tellement de personnes qui sont impliquées, parce que moi, je parle en tant que producteur de spectacle, mais de l'autre côté aussi, je suis intermittent du spectacle. Donc ça veut dire que... et puis voilà, quoi, il faut que les gens vivent. C'est clair, c'est une maladie qui tue et tout, mais il faut quand même aussi vivre. Et puis bon, de manière très... En faisant vraiment attention, comme disaient tous mes compatriotes, avec des mesures très strictes, distanciation, des salles qui ne seront pas pleines à 100%, peut-être avec de la distanciation à maximum 50%. Et puis,
le ministre guinéen parlait tout à l'heure de tests Covid pour les participants au spectacle. Oui. Comme condition, est-ce que c'est réaliste?
Ça dépend des pays, parce que le seul problème, c'est que souvent, c'est à faire, peut-être, pourquoi pas plus? Pourquoi pas?
Merci
peut-être.
Beaucoup.
Après, c'est vrai que c'est à 72 heures d'habitude, je ne sais pas dans quel, par rapport à ce pays-là, mais souvent, on vous demande 72 heures avant. En fait. Mais, donc, dans 72 heures, il peut se passer beaucoup de choses.
Merci beaucoup. En quelques mots, Didier Awadi, vous avez proposé, hein, les autres intervenants parlent de réouverture avec des mesures strictes, mais vous avez proposé cette solution au Sénégal, un protocole, mais ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a coincé? Et est-ce que vous avez espoir que, oui, cette piste est réalisable?
Non, nous, ce que nous avons fait, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Culture avec des professionnels de la santé pour sortir un protocole qui stipule qu'on peut jouer au moins dans des jauges n'excédant pas 500 personnes et, ou si et seulement si le respect des mesures barrières est effectif. Donc, ce sont les restaurants, ce sont les hôtels, en tout cas les petits lieux où la plupart des gens travaillent day to day. Donc ça, au moins, c'est possible. Et nous savons que c'est réalisable, ce n'est pas utopique. Et donc, les tenanciers de ces endroits sont prêts à jouer le jeu, les artistes sont prêts à jouer le jeu. Et donc, il suffirait que l'État nous suive et nous fasse confiance.
Mais pour l'instant, voilà, ça coince.
Oui, ça coince, alors que nous sommes la seule corporation à avoir mis sur la table un protocole sanitaire qui permettrait à tout le monde de travailler dans le respect des mesures barrières.
Et qu'en est-il en quelques mots, Didier, malheureusement, le temps est presque épuisé.
Ouais, okay.
Certains artistes ont organisé des concerts virtuels par Facebook. Est-ce que c'est aussi envisagé, peut-être explorer cette piste? C'est possible?
Mais ça, on ne gagne pas d'argent. Ça, c'est bien, c'est pour exister, c'est sympa. On en fait. Mais on gagne pas d'argent avec ça, faut pas croire. On n'a pas la culture de streaming, on n'a pas la culture du pay-per-view. C'est pas encore là. Et puis tout le monde n'a pas une bonne connexion, donc c'est très illusoire. Mais les Merci. Artistes le font pour exister et être en contact avec leur public.
Monsieur Kera, vous m'entendez? Allô, Monsieur Misk Kera?
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tous ces artistes qui se sont exprimés dans cette émission suite à leur cri de cœur?
Il faut dire que je suis solidaire. Hein. Je suis solidaire des problèmes qui sont d'ailleurs qui sont semblables un peu partout en Afrique. Didier, je le connais très bien. J'ai plusieurs fois.
Oui, mais au-delà de la solidarité, ils veulent travailler. Ils demandent la réouverture aménagée des salles de spectacle. Est-ce qu'en Guinée, on peut espérer que ce soit possible?
Oui, mais nous, déjà, toutes les salles de spectacle sont ouvertes. Et c'est ce que je suis en train de vous dire.
Vous encouragez les ministres, vos collègues, à faire de même?
Oui, je les encourage, mais bon, il faut tenir compte aussi de la gravité de la maladie, parce que chaque pays a ses spécificités. Bon, je ne sais pas, les épidémiologistes d'ici, il faut leur tirer le chapeau.
Préciser, un épidémiologiste français, je l'ai entendu, disait ici que les salles de spectacle ne sont pas plus dangereuses que les restaurants où les gens sont obligés d'enlever les masques pour manger et ça cause énormément.
Absolument, le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ici, Dr Sakoba, lorsque nous l'avons rencontré au cours de la réunion avec les opérateurs culturels, il nous a dit la même chose. Et c'est ce qui, justement,
respecter la réouverture des salles, parce qu'il faut dire que plusieurs spectacles avaient été annulés. Et il y a eu un peu, j'appelle ça comme ça, un peu de subvention de la part de l'État.
Merci.
Mais bon, donc, il y a une seconde subvention qui est promise. Nous attendons, bon, après les élections, certainement, dans les heures qui viennent.
Il y aura une seconde aide pour le secteur culturel en Guinée. Merci beaucoup à vous, madame et messieurs, d'avoir participé à ce débat sur la relance du secteur culturel sinistré. Restez avec nous. À tout à l'heure.